bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Mais oui, c'est là que ça se passe avec Leïla Tellouli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Daniel Morin. Oh, c'est déjà dit. Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. Jean-Louis Bastion. Et notre invité, Sylvie Testu.
Bonjour.
Bonjour Sylvie. Merci de venir nous parler. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Sylvie Testu est au théâtre.
Ouais.
La deuxième, c'est que Sylvie Testu est avec nous jusqu'à midi et demi. Ça fait deux bonnes nouvelles. C'est bien pour une journée.
Ben, je suis ravie deux fois.
C'est cool. La pièce s'appelle L'heureux stratagème. C'est signé Marivaux. Mise en scène par Ladissa Chola. J'insiste tout de suite sur la mise en scène parce que c'est très rock, en fait, comme Marivaux.
Ouais, c'est très rock, c'est très sanguin, c'est très dans l'émotion. Plus que dans une chose un peu classique, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Parce que
on n'a pas une patate
texte...
chaude dans la bouche, quoi.
Non,
on n'est pas en train de déclamer du mari.
C'est ça.
Voilà. Et puis comme le théâtre, c'est à Édouard VII, c'est déjà un gros théâtre, comme ça, privé, il voulait absolument entrer dans quelque chose qu'on ressente, plutôt qu'on écoute et qu'on regarde,
ouais,
quoi.
Ça claque.
Et ça fonctionne. Alors tout part d'une. Alors, il y a des marquises, des comtesses. Je ne sais plus si vous êtes la marquise ou la comtesse.
Je suis la comtesse.
Ah, vous êtes comtesse.
Je suis en dessous de au-dessous de la marquise.
Voilà. Mais vous êtes la force accueillante. Tout se passe chez vous. On est dans une unité de temps, de lieu, d'action avec vraiment les codes du théâtre classique. Et puis vous êtes promise à un homme, sauf que vous voulez continuer de savoir si vous allez plaire et vous poussez le quoi. Non.
Oui, bien sûr. C'est dit très élégant. C'est bien.
Vous
c'est
éprouvez, continuez à éprouver le désir des autres et voir un peu finalement si le désir d'un nouvel homme ne viendrait pas balayer celui du précédent.
Voilà, c'est ça. C'est,
et c'est même pas si elle a déjà désiré le précédent.
Non, c'est qu'il y a un très beau chevalier qui passe par là.
Un gascon.
Et voilà, un gascon qui est lui.
Très très drôle, joué par Jérôme Robard.
Oh,
extrêmement
super.
Drôle.
Ah oui, moi je suis obligée d'arrêter. Enfin, la réplique,
drôle.
C'est le public qui la donne. Hein. Moi je dois attendre, parce que chaque fois qu'il parle, les gens rient, donc j'attends. Et ensuite, c'est à moi de parler.
C'est une question de tempo.
C'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau.
Et
le jour de la première, d'ailleurs, le metteur en scène m'a dit attends bien, Sylvie. Parce qu'on n'entendait absolument rien de ce que je disais au départ, quoi.
Parce que... À la fin de sa phrase, vous parliez, sauf que vous étiez couvert par les rires.
Exactement.
Du public. Voilà.
Donc il fallait que je hurle. Il m'a dit non, mais si t'attends, tu verras. Il y a un moment, ça cesse.
Non, c'est un personnage. Donc arrive ce bonhomme.
Ouais, ce chevalier. Et elle est très attirée par lui. Et subitement, elle décide que, elle va tenter l'aventure. Sauf que, ce chevalier devait lui-même se marier avec la marquise. Et la marquise, et donc la personne que je délaisse, décide de monter un stratagème. Et en fait.
Mais tout se fait autour de la fidélité, ou l'infidélité, et la jalousie.
Ouais. C'est ça. Et puis aussi du désir de possession. En fait, elle se sent pas infidèle. C'est ça. Et c'est vrai, si on y pense, on se dit, l'infidélité quelque part. L'infidélité, au départ, qu'elle soit féminine ou masculine, à la base, c'est aussi vous se tromper soi-même déjà dans un premier temps, c'est sortir de sa vie, non? Et en fait, il y a certainement une lassitude, il y a quelque chose. Ce que dit mon personnage au départ, et je vois, il est très sceptique sur ce que je raconte.
Regardez-moi, Sylvie, je suis d'accord.
Mais en tout cas.
Je suis d'accord, Nagui.
Mais en tout cas.
T'es d'accord, c'est un truc de fils, hein?
Non. Parce que je pense qu'on, à la base, avant le mensonge.
Laissez-la parler aussi.
Il y a un désir de se perdre. Oui. C'est ce qu'elle dit au début de la pièce. Quand elle dit, il y a un seul homme qui compose tout votre univers, on ne doit regarder qu'une seule personne. Et ça, c'est faible en émotion. Ça, c'est faible pour une vie totale. On ne peut pas signer un contrat pour toujours sans jamais se dire, il va y avoir une égratignure. Ça va jusque-là.
Ouais.
Elle pousse les choses un peu loin.
Ça permet finalement à celui qui est amoureux de vous, incarné par Eric Elmosnino, de se dépasser un peu parce qu'il était quand même un peu chiant, un peu gnangnan, un peu dans la routine, jamais très très bien habillé, pas souriant, pas très heureux.
Les choses étaient acquises.
Un peu, il devient un peu moins chiant sur la fin, je trouve.
Oui, oui. Ouais. Il devient un peu plus sexy à la fin.
Un petit peu déjà, il change.
J'ai dû fermer l'œil à ce moment-là.
Non, mais parce que tout d'un coup, il a envie de susciter le désir. dire. Et il a envie, et c'est pas acquis, parce que finalement, il pensait que la relation, elle était acquise et qu'il n'y avait plus d'efforts à faire.
Voilà, c'est exactement ça. Et elle le dit dès le départ de la pièce. C'est là où Marivaux, quelque part, est quand même dans les sentiments masculins et féminins.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il voit les deux côtés. Lui, par exemple, Dorante, donc joué par El Mocino au départ, est affligé parce qu'il pensait qu'elle lui appartenait quelque part. Il y a. Dans l'amour,
je te trompe,
il y a
mais si t'avais fait un effort, on n'en serait pas là.
C'est ça.
voilà.
Non, mais là, comme s'il avait signé un bail, alors que c'est pas ça.
Exactement. Il lui dit, vous traitez ça comme une dette et ça n'est pas une.
Voilà.
On verra si le stratagème fonctionne ou pas. Finalement, s'il y a des dommages collatéraux ou pas dans cette pièce drôle, c'est au théâtre Édouard VII, j'ai oublié de le préciser. Mais question d'abord concernant Sylvie Testu autour de cette table. Savez-vous ce que Sylvie ne fait jamais seule?
La vaisselle,
la cuisine.
Non.
L'amour.
Dormir. Dormir. Dormir.
Je ne veux pas savoir.
On peut peut-être le dire.
Quoi donc, Sylvie?
Dormir.
Aller au cinéma.
Non, vous voulez dire quoi?
L'amour seul.
Bah si.
Ça ne s'appelle plus l'amour. Non, je suis désolée. Ça porte un autre nom.
Ah, ouais.
Soyons exacts.
L'onanisme.
Soyons précis.
Oublions.
Les vacances. Les vacances.
Non.
Les courses.
Le sport. Non. C'est
s'ennuyer, dormir.
Est-ce que c'est surprenant?
Ce ne sont pas des tâches ménagères.
Du ski.
Je ne sais pas comment font ses camarades, puisque c'est un truc professionnel, mais
à répéter.
La concentration.
Ouais, je vais accepter le répéter de Frédéric Seri. C'est apprendre son texte. Vous n'apprenez jamais votre texte seul.
Non. Non, en fait, c'est parce que j'ai une mémoire, je photographie, je vois même la page. Je vois, hop, à la fin du mot 46.
Ouais.
Et on commence en haut de la page à gauche. Ça va pas. J'arrive plus après à l'incarner correctement. Donc, évidemment, au départ, je fais une première passe toute seule, mais après, je ne veux plus lire le texte. Donc, je le dis avec quelqu'un.
C'est qui quelqu'un? Vous avez quoi? Un coach?
Alors,
vous avez un répétiteur?
La première personne qui se présente. Et il se trouve que souvent, c'est le père de mes enfants, le pauvre. Le jour de la première, il a eu un cadeau de première, lui aussi.
Il a dû être content. Pour Marivaux, il a dû être content.
Ah, il était ravi. Non, à part ça, non, il était hyper content. Parce que souvent, ce sont des scénarios.
Ouais.
Et c'est une langue plus contemporaine. Et là, il me dit, oh, c'est vachement bien cette langue. Parce que c'est vrai, peu de gens qui ne font pas de théâtre lisent du Marivaux.
C'est clair.
Voilà. Ouais. Et donc, il a découvert Marivaux et finalement, il est en train de lire L'île des esclaves, là, maintenant. C'est quand même drôle.
Il prend goût. Ouais. Quelle question philosophique, un matin, sa fille de 7 ans lui a posée?
Pourquoi on meurt?
Pas loin.
Pourquoi on vit?
Oui.
Non. C'est chaud, hein?
C'est pas loin, mais un peu loin.
Moi, je pense à la
mort. Troisième phrase et on avait une chanson. Hein.
Oui, c'est vrai. Ça fait un refrain,
vrai,
là.
Alors, t'as le titre. Le titre, c'est « Ça sert à quoi d'exister ?» Elle est violente, cette phrase.
C'est chaud.
Ça sert à quoi d'exister? Mais que répondre?
Ben, il y a un petit blanc.
Pour laisser passer les rires.
Ah ouais, non, là, c'était parce que j'étais dans un désarroi total. Et elle s'est retournée et m'a dit « Maman, mais en fait, ça sert à quoi de vivre ?» Mais comme ça, tellement placé, tellement droit. J'ai dit, il y a beaucoup de questions comme ça auxquelles il vaut mieux pas apporter de réponse, que sinon on s'amuse moins. J'ai dit, non, en fait, c'est un terrain de jeu, la vie, avec des règles. Il faut juste en respecter certaines, mais c'est un terrain de jeu. C'est comme si je te demandais, ça sert à quoi de jouer? Ça fait juste plaisir, si tu
respectes les règles. C'est joli comme réponse.
Bah, je savais pas quoi faire d'autre.
Non, mais c'est balèze, en tout cas.
Elle avait 6 ans. Je peux dire que j'étais quand même pas super tranquille. Monsieur, est-ce que j'ai bien répondu?
Ouais, absolument. Bonne réponse. La plupart des actrices sont invitées à des fêtes, reçoivent généralement des cadeaux de grandes marques.
Elle refuse.
Des échantillons. Non, Sylvie reçoit autre chose.
Elle prend celle des autres.
Du vin.
Des
de la nourriture.
Pas loin.
De l'alcool fort, du
des
cognac,
gâteaux.
Des choses comme ça.
Non. Du saucisson.
L'alimentation.
De charcuterie.
L'alimentation, la bouffe, des bons cadeaux, des restos.
Du pâté, des terrines.
Non.
Des cornichons.
Du fromage.
Oui, mais lequel?
Du camembert.
Oui.
Ah oui, c'est vrai, le camembert. Passion camembert, c'est vrai. J'ai oublié ça.
Oui. Passion camembert.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est terrible. Hein.
Moi, j'ai pas entendu la question, donc je sais pas.
Ça coûte pas cher.
Non, mais la dernière fois que vous êtes venu, on avait rigolé sur le camembert. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Absolument. C'est ici que vous nous aviez raconté avoir reçu des cartons de camembert. C'est Dominique Bessner qui vous a dit viens. Il y a un carton de camembert qui a été livré.
Qui a été livré le vendredi soir et il l'a découvert le lundi matin. Ça a passé tout le week-end. Et camembert au lait cru. Formidable, moulé à la louche.
Sinon,
pendant
tout
un week-end, un petit
là,
printemps, parce que j'avais dû le dire, parce que c'est vrai que le au petit déjeuner, ben voilà, parce qu'on se raconte. Nous. Au petit déjeuner, je mange du fromage.
Ah, d'où la question de votre fille.
Non, elle aurait pu dire pourquoi n'es-tu pas seule, maman?
Comment ça se fait?
Comment papa est toujours là? Pourquoi petit déjeunes-tu face au mur tous les matins?
Avec ses enfants, justement, puisqu'on parle beaucoup de votre fille, il y a deux enfants, c'est ça?
J'en ai deux, j'ai un garçon et une fille. Oui.
Avec ses enfants, c'est papa qui s'occupe de tout ce qui concerne des problèmes, des soucis, et quel est le rôle de maman?
La fête.
Les câlins.
L'argent de poche.
Non.
Non.
Les romans trans.
Pas fou.
Non.
Les punitions.
Non.
Le rire. L'amusement, les divertissements, les loisirs.
Ouais, c'est plus que le rire, c'est vous dites la déconne. La déconne, c'est moi, papa, c'est les soucis.
Sympa.
Mais c'est, non, mais en fait,
c'est good cop, bad cop.
Oui, mais en fait, je le soulève parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on disait, mais vous êtes un couple à l'envers. Mais je dis, pourquoi il y a un envers à un endroit? Et en fait, parce que un jour, dans un jardin, mon fils tombe, et on était tous les deux, hein, le père et la mère, et puis il dit, papa! Et tout le monde s'est retourné vers moi en disant, ah, il dit pas maman quand il tombe. Je dis non, il dit pas maman, il dit papa. Et donc il court plus vite le père.
C'est allô papa bobo et pas.
Et voilà, et moi j'arrive et puis on dit, alors qu'est-ce qu'on fait maman? Eh ben écoute, on va faire, je cherche quoi pour les amuser. Et c'est vrai qu'ils trouvent, ils rient plus volontiers.
Et vous revenez à votre thèse, la vie est un jeu.
Voilà. Et c'est vrai que ça m'avait blessée au départ quand on nous disait qu'on était à l'envers. Je me disais, bah alors je suis une mère démissionnaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis finalement, ça a l'air de bien se passer, ils sont contents comme
mais
ça.
Putain. Allez, dernière question, qu'est-ce que Sylvie Testu peut faire pendant des heures?
Dormir.
Lire, contempler,
dessiner,
siester,
manger, rêver, rêvasser.
Non.
Je fais très vite ça.
Chanter, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant
des heures à faire quelque chose où généralement nous on essaye d'aller le plus vite possible?
La douche.
Les courses.
Frédéric Siris, t'as une confidence à nous faire, attention.
Dis quoi?
Attention. Non mais attends, tu sais, quand t'as des enfants, ça devient ton seul espace de refuge. Hein.
Je lui dis, nous on essaie de faire...
Je suis en train d'écrire un livre où le père fait exactement ça.
Mais sauf c'est
que, ça. Au lieu d'être sous la douche, il est aux toilettes. Quand on le cherche, on dit, ah, il doit être aux toilettes.
J'appelle ça ma forteresse de solitude.
C'est bien, mais c'est pas ça.
C'est
non, 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 c'est pas ça. Nous on essaye de faire ça, de même
la douche.
Éventuellement de ne pas le faire.
Le ménage.
Exactement, exactement. Bien vu, Alexis Rossignol. Vous aimez, vous êtes une maniaque du ménage, vous nettoyez en profondeur.
Alors il y a des moments particuliers, en fait c'est
quand
souvent
c'est
quand j'étais pas... Ouais, non, même pas.
Non,
c'est quand je suis absente pendant longtemps et il y a une sorte de désir de réappropriation,
ouais,
je pense.
Ouais.
Et je suis une maniaque du miroir par exemple. Si moi je nettoie un miroir, il n'y a plus un reflet. Il n'y a pas ce petit truc qui ressemble à un micro arc-en-ciel quand on bouge la tête devant. Non, on ne se voit pas bien.
Pardon.
Moi, je veux qu'on voit tout bien, qu'on ne le voit pas. Et c'est vrai, je vais même jusqu'à nettoyer les coins avec des cotons-tiges.
Les plaintes
de cotons-tiges. Une dame qui vient chez moi pour m'aider à faire le ménage. Quand je fais le ménage, ça l'énerve, elle prend peur.
Mais pardon, on peut appeler ça maniaque ou c'est abusé?
Oui, parce que je fais le tour des robinets et tout.
Non, appliqué.
L'heureux stratagème, donc, c'est au théâtre Édouard VII avec Sylvie Testu, que vous qualifieriez d'ailleurs toutes les deux de pièces féministes ou pas? Leïla, Sylvie.
C'est une pièce qui met en lumière les femmes. Je ne sais pas si elle est féministe.
Elles ont beau rôle, en tout cas.
Elles ont le beau rôle.
C'est elle le moteur de toute intrigue.
En fait, dans le sens où c'est un peu féministe quand même, c'est que, bon, alors ça a été écrit en 1733, mais surtout, ça met à l'honneur le paradoxe féminin. Ça met à l'honneur, en fait, l'endroit où Marivaux donne le droit aux femmes d'avoir plusieurs sentiments qui se collent les uns aux autres et que ce ne soit pas de l'hystérie. Que c'est quelque chose de ressenti réellement profondément au quotidien. Et ce ne sont pas des crises. Moi, mon personnage, qui est d'une mauvaise foi sans nom pour s'en sortir, quelque part, elle a une envie urgente de vivre et de vivre des émotions qui sont fortes, quitte à se tromper. Et finalement, il la sauve, cette comtesse. Bon, au final, donc ça s'appelle l'heureux stratagème, on ne dévoile pas énormément de choses.
Ouais.
Donc l'issue est heureuse, en tout cas pour mon personnage, c'est qu'il n'y a pas quelque part de choses à payer, il n'y a plus de dettes. Ça se finit sans qu'il y ait sans qu'on lui demande à cette comtesse de se justifier plus que ça.
Chez Marivaux, et particulièrement dans cette pièce, l'épreuve n'est pas à sens unique. C'est-à-dire, il y a des éprouvés qui éprouvent et des gens qui éprouvent qui sont éprouvés. C'est à double sens. Donc, c'est une pièce féministe.
Tu peux reformuler ta phrase, parce que là, franchement. Moi, je suis en fin de semaine, je suis au bout du rouleau.
Oui. Non, il n'y a pas de quoi être au bout du rouleau, parce que c'est vraiment.
Si, je suis au bout du rouleau. C'est mon rouleau, je suis au bout de mon rouleau.
Change de rouleau.
Là, on a fait Frédéric.
Demande à Frédéric.
Non, dis, explique.
Je veux dire que l'épreuve que subissent les uns, les autres la subissent aussi.
Oui.
Et donc, c'est très équilibré. C'est le paradoxe, justement, chez Marivaux. C'est ça qui est passionnant.
Non, c'est pas un paradoxe, c'est une malice.
Oui.
Dans l'écriture, que chacun va vers une piste, un stratagème, justement, et fasse tomber l'autre aussi dans un autre excès duquel il doit se sortir, et ainsi de suite. Et donc, donc il y a une espèce de comme ça d'avalanche de problèmes posés par les uns et les autres. Je pense notamment à une comédienne, je tiens à citer son nom parce que j'ai trouvé brillante, Roxane Durand, qui est formidable, avec sa chevelure qui se, déploie à la fin, mais qui est votre
servante,
je sais pas
suivante,
qui est votre suivante et qui tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'elle l'entend déclamer des phrases sur l'infidélité. Pourquoi resterai-je fidèle à un seul homme dans ma vie?
C'est désopilant.
Et elle dit, eh ben moi aussi je vais faire ça.
Voilà.
Donc elle copie et elle essaye de retranscrire, de reformuler le même discours sans avoir bien capté les arcanes. Et c'est extrêmement drôle.
Et c'est la mise en abîme chez Marivaux parce que les serviteurs, les servantes assistent à ce spectacle, font comme les maîtres avec maladresse, mais avec malice aussi. Ça c'est tout.
Mais je sais pas si c'est féministe en vrai. Simplement, les personnages féminins ont le droit d'éprouver une forme d'inconstance temporaire, d'aller voir un peu ailleurs, comme d'autres personnages masculins le font depuis des générations et des dégénérations. Il s'avère que il y a erreur potentiellement parce qu'on s'est un peu emballé. Je suis pas persuadée que ce soit plus féministe.
Il y a une analogie avec Don Juan d'ailleurs.
La vanité est présente, la vanité est citée.
Voilà, c'est là. Ben voilà, c'est exactement ça. La différence de ce qui se passe, parce qu'il y a un côté aussi d'Anton Abbey avec les maîtres et les valets.
Ce qui est en
les deux niveaux.
Et la différence, c'est que la suivante, elle. Quand la comtesse lui explique qu'elle va vivre que la moitié de sa vie si elle ne s'adonne pas à l'infidélité, c'est que quelque part, elle n'a pas l'autorité, l'arrogance et surtout l'orgueil qu'a sa maîtresse. Donc en fait, elle y va de bonne foi. Elle dit, ah oui, alors si on vit qu'à moitié, alors moi je veux vivre à 100%, je vous suis. Alors que moi, mon personnage a un amour propre qui est...
Démesuré.
Est-ce que on pourrait dire c'est extrêmement moderne aussi cette notion de tester l'amour de quelqu'un en faisant créer une jalousie par une vraie ou une fausse infidélité, parce qu'on ne sait même pas d'ailleurs si l'infidélité s'il y a consommation ou pas en termes d'infidélité. Simplement, elle lui met la puce à l'oreille aussi en disant il n'y a pas que vous dans ma vie, je ne vous aime pas particulièrement, j'ai envie d'en aimer un autre. Elle fait naître la jalousie.
Oui, l'infidélité, à partir du moment où elle y pense, c'est déjà trop tard. Enfin, je veux dire, elle part avec le Gascon finalement.
Mais surtout elle dit.
Pardon. Hein. Quand bien même elle n'aurait pas consommé physiquement, si on parle de ça.
Elle aurait même le désir étant déjà.
Le désir.
Désir est déjà d'infidélité.
Elle préfère. Préfère quelqu'un d'autre.
Le désir est déjà quelque chose.
Même 10 minutes, c'est foutu. Ouais.
Les hommes, quand ils ont envie de nous quitter, ont-ils autant de scrupules?
Ils font-ils tant de façons,
Font-ils tant de façons? Donc elle remet les choses.
Mais pour répondre à sa question, c'est-à-dire, oui, c'est contemporain, mais ça veut dire que c'est depuis toujours. Que finalement les relations.
C'est la nature humaine. Est-ce que vous pensez que les couples qui sortent du théâtre ont ce genre de discussion?
Il passe une très bonne soirée.
Il a la trompe.
C'est au théâtre Édouard VII avec Sylvie Testu et maintenant François, des révélations à vous faire.
Salut les amis. Salut Nagui et coucou Sylvie. Moi aussi j'ai été séduit, emballé par l'heureux stratagème. Et je sais que tous ici dans la bande originale, nous nous sommes reconnus dans les divers personnages de cette pièce. À commencer par Leïla, qui s'est complètement identifiée à la comtesse quand elle dit au premier acte « Je te cite et j'ouvre tes guillemets Sylvie. Bien loin que l'infidélité soit un crime, je soutiens, moi, qu'il ne faut pas hésiter un moment d'en faire une quand on est tenté. Oui, j'ai kiffé cette pièce. Valse intemporelle du désir et des sentiments, où sont mis à nu les rouages de la passion, qui frappe de stupeur les cœurs et les esprits, mis à l'épreuve dans une atmosphère qui allie allégresse et cruauté, ruse et sincérité. Ça, c'est envoyé. Autre chose que les analyses des théâtres du Masque et la Plume, dont Nagui m'a confié tout à l'heure qu'il les écoutait pour s'endormir quand il avait du mal à trouver le sommeil. Évidemment, j'ai été...
pas le répéter.
Oui, mais quand même, je suis là pour dire la vérité. Évidemment, j'ai été surpris que le metteur en scène ait choisi de situer l'action dans les années folles, et non sous la Régence, au XVIIIe siècle, mon époque préférée complètement, à cause des chemises à jabot glam rock, des vestes roses bonbons, des souliers à talonnettes style platform boots, et des perruques poudré façon zouzou coiffure. Mais je dois dire, Sylvie, que dans ta robe en lamé, près du corps...
Ouais, très près du corps.
Année 20, tu as suscité l'admiration de mes amis de la bande originale. Et comme je n'oublie pas que mon job ici, c'est la révélation de ce que le grand public ignore et n'entend pas, je peux dire que dans la pénombre du théâtre Édouard VII, Daniel Morin, qui venait de se réveiller au milieu du troisième acte, m'a broyé l'avant-bras en marmonnant. La testu, j'aimerais bien la tester.
Classe.
Assume, Denis, assume, excuse-toi et bonne émission.
Merci, à
sur France Inter.
Non, la vraie information, c'est que Daniel Morin se réveille pendant l'acte. Ça, c'est la vraie étape d'information.
C'est vrai que c'est nouveau.
Ça, c'est une info.
Ça, c'est de l'info.
On dit s'endormir sur la viande en argot.
Au théâtre Édouard VII, donc l'heureux stratagème, cette pièce signée Marivaux, et j'ai envie de dire re-signée Ladislas Chola, parce que c'est vrai que, comme l'a souligné Albert, la transposition dans cette période, la manière dont c'est fait, le rythme aussi, quand je dis que c'est rock'n'roll,
Charleston.
Les mots, non mais les mots, les verbes sont les mêmes, sauf que le tempo, la manière dont vous jouez, là, c'est vraiment le travail de Ladislas Chola de vous avoir dirigé comme ça.
Oui, c'est ça, il voulait que ça se
passe de manière plus contemporaine, on va dire.
Voilà, mais, dans les années folles, parce que c'est une période où il y a un désir de liberté, que le rythme justement n'est pas le même et qu'on accepte une certaine forme de, pas de décadence, mais où dans les rapports humains, on a l'impression que ça s'ouvre un peu.
Où la vie est une fête.
Exactement. N'est pas un jeu, mais est une fête. Et en fait, il avait envie de ça parce que quelque part, ça révèle la cruauté. À partir du moment où vous avez le droit et que vous prenez ce droit, ah, bah alors, ça enlève les atours, ça enlève un peu tout ce qu'il y a autour, le décorum. Et Marivaux, qui était par ses contemporains pas très bien jugé, parce que il parlait a priori de choses un peu trop légères. En fait, Ladislas Chola, donc le metteur en scène, disait, mais en fait, ce sont des choses qui sont lourdes de conséquences pour chacun. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'épreuve l'autre, mais eux-mêmes, par rapport à ça. Cette comtesse, elle se consume
à un moment. Ce qui est drôle, c'est que aussi, ils sont tous sincères dans leur... dans le drame qu'ils sont en train de vivre, quoi. C'est-à-dire que aucun ne joue ou ne sourit de ce qu'il vit. Ils sont tous en train de vivre un drame.
Ouais, ça c'est essentiel, parce que si quelqu'un est un poisson froid qui fait de la stratégie, alors ça devient quelqu'un de mal aimable, ça devient quelqu'un de qui n'est pas intéressant humainement. Quelqu'un qui se trompe, mais avec beaucoup de passion, alors on peut lui pardonner.
Il est touchant.
Oui, voilà, c'est ça.
Il ment avec passion.
Mais
il ment pour obtenir une vérité. C'est
exactement.
Très bizarre.
Voilà,
c'est
marrant, pour
parce que
obtenir.
Ça rejoint un peu la télé-réalité d'aujourd'hui quand on voit des gens qui établissent des stratagèmes pour gagner.
Ça va,
excellent.
J'ai pas vu Marivaux à la télé-réalité. Tu veux dire quoi?
Ah bon? Mais il est au bout du rouleau en ce moment.
Oui, on est vendredi, c'est ça. Saluons également le travail d'Emmanuel Roy parce que le décor, la scénographie est dingue.
C'est dingue. C'est un jardin dans
lequel. Au lever de rideau, on se prend une claque. Tellement on sent que.
Il y a des soirs où le décor est applaudi d'ailleurs.
C'est pas non, c'est vrai qu'il est joli.
On sent qu'on a mis de l'argent dans le décor.
Je voulais pas dire ça comme
ça. Faut le dire.
Mais on sent que les moyens sont.
Non,
mais tu as
raison. Alors, je ne sais pas combien ça a coûté.
Non, mais les moyens sont là, en tout cas.
Oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas, il avait aussi envie de ça. C'est-à-dire, il y a un côté sexy dans ce jardin. C'est ce qui se passe à l'arrière des soirées dans les maisons. On le sait.
On est dans un patio avec des tables.
Voilà, dans un patio. La maison étant de là où on arrive tous quand on descend l'escalier. C'est censé être ma maison avec mon jardin où il y a un piano qui traîne et qui voudra jouera une fois qu'il aura bien bu les verres de champagne qui traînent sur une des tables. Quoi.
Et un immense miroir qui a aussi son effet pour le final. À vous de le découvrir.
Très bien nettoyé le miroir.
Au théâtre Édouard
VII. Ils ont fait exprès.
Non, pas tant que ça.
Ils l'ont laissé sale.
Oh là là.
Parce que comme ça, la vie est passée dessus. Tous les soirs, je suis intrigué, je veux le nettoyer. Mais on empêche.
La vie est passée sur lui aussi.
Ouais, la vie est passée dessus aussi. Voici Alexis Lorenzignol. Ah bah,
quel accueil.
Ah, ça c'est poétique. Hein.
Elle a pas nettoyé après, hein, je peux te le dire.
Bon, ça va là. On peut faire son taf tranquillement.
Moi aussi, je suis au bout du rouleau.
J'ai croisé l'Orange Bloc ce matin.
L'Orange. Elle a les cheveux rouges, mais elle s'appelle pas l'Orange.
Mais tu sais que ça
va voler l'Orange.
Ça va lui rester. Ça va lui rester. Vu la couleur de ses cheveux, elle devient maintenant aujourd'hui l'Orange Bloc.
Eh ben voilà.
Formidable.
Franchement, je sais pas si ça va être plus drôle après. Je me demande si je devrais pas arrêter là.
Allez, salut le public.
C'est la directrice de France Inter pour ceux qui ne sont pas courants.
Qui a les cheveux orange, voilà. Justement.
Rouge. Je l'ai vu de loin, du coup. Je me suis dit, cool, je vais lui demander ce qu'il en est de ma petite requête, tu sais, d'égalité salariale. Là. Hein, ça doit être sa préoccupation du moment. Arrivé à son niveau, je lui dis bonjour, avec un grand sourire. Elle m'a répondu « Bonjour, vous travaillez ici ?» Je dis « Oui, mais on se croise pas souvent, je suis à la maintenance, moi, tu vois, les radiateurs, tout ça, je venais pour l'augmentation de la température, voilà, c'est comme c'est bientôt l'hiver. » Bon, sans transition, j'ai fait un rêve bizarre il y a deux jours. Enfin, il y a deux nuits plutôt. Ça vous arrive à vous d'être dans un sommeil profond et de vous voir en train de faire un discours sur la réussite professionnelle devant des étudiants ?
Non.
Non, hein. Bah moi, oui. Hein. Quand je dors, j'ai un ego. Je suis le Dick Rivers des humoristes, quoi. Dans mon rêve, ici, il y avait Bedos, là, il y avait des proches, et moi, j'étais là, au-dessus de la mêlée, tu vois. Les gens me regardaient comme un gourou. Au premier rang, les étudiants dégrafaient leur soutien-gorge. J'étais obligé de leur dire doucement, les filles, j'en choisirais qu'une. Je suis drôle, mais au lit, c'est pas foufou non plus, quoi. Et le pire, c'est que je me souviens très bien de ce que je leur ai dit. Il était bien, ce discours. J'étais là, vous savez quel est le pire conseil qu'on m'ait fait, chers étudiants? Le pire conseil qu'on m'ait fait, c'est avance, mais ne referme aucune porte derrière toi. Parce que ça semble être un bon conseil de pas fermer les portes derrière soi. Mais en vérité, non, c'est un mauvais conseil. Parce que garder un maximum de portes ouvertes, c'est aussi le meilleur moyen de se perdre dans les méandres de la vie. Wow. Voilà, je parlais vraiment comme ça dans mon rêve. J'étais un conférencier en pyjama, quoi. Et là, il y a un étudiant qui a levé la main. Je lui ai dit, je vous écoute. Il m'a dit, je comprends pas. Je lui ai dit, réveillez-vous. C'est pourtant simple. Quand on a l'embarras du choix, parfois, on a surtout l'embarras. Ça, c'est plus ou moins une phrase de Coluche dans la vraie vie. Mais Coluche, dans mon rêve, c'était le nom d'un légume rustique. D'où l'expression, on en a bouffé du Coluche pendant la guerre. Après, une étudiante m'a dit, c'est quoi la clé du succès, monsieur le Rossignol? J'ai dit, ah, la clé du succès, celle qu'on aimerait tous avoir dans sa poche ou dans son trousseau. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, la clé du succès, c'est stay hungry, stay foolish. Là, elle m'a dit, copie de discours, ça c'est Steve Jobs. À ce moment-là, ma copine s'est réveillée, elle m'a dit, ça va? Moi, j'étais encore dans mon rêve. J'ai dit, non, j'ai pas copié. Alors, si je vous parle de ce rêve, c'est parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Et ça, c'est rare. Oui. J'ai rêvé que je faisais un discours parce que mardi après-midi, j'ai écouté War, une chanson de Bob Marley, qui est tirée d'un discours d'Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie dans les années 60, considéré comme le messie par les Rastafari. Voilà. Ouais. Qu'après avoir écouté la chanson, j'ai regardé ce discours sur YouTube et que dans le même temps, j'ai reçu un mail des anciens élèves de mon école pour m'inviter à une conférence. Voilà. Qu'ensuite, j'ai cliqué sur la recommandation discours de Fidel Castro aux Nations Unies en 1960, à voir absolument, si vous l'avez jamais vu, vraiment un grand moment. Je vous en fais un petit morceau en VO, si vous voulez, pour le plaisir. L'exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.
À cette parole,
j'adore.
Basta pas
cette parole, il faut des faits maintenant.
Il faut des faits. Physiquement, il y a un truc.
Bon, là, j'étais bien chaud quand même. Alors, dans le feu de l'action, j'ai cliqué sur Hitler's The Very Best Of.
T'as des recommandations bizarres.
À voir absolument si. Non, je sais pas ce que ça vaut. C'était pas sous-titré en français, alors j'ai pas regardé. Voilà. Je m'en veux d'avoir choisi espagnol LV2 parfois. Franco, c'est quand même pas au même niveau. Hein. Donc, c'est génial, Internet. Tu passes de Bob Marley à Hitler en 4 clics. Voilà. Et les gamins, ils ont YouTube sur leur téléphone. Mon record, c'est Rocco Siffredi en 1 clic. L'année dernière, je cherchais Le Roi Lion en streaming pour mon filleul. J'ai tapé Le Roi Fion sans faire exprès. Il a aimé quand même.
T'as pas honte.
Bref, il était tard et là j'avais atteint le point Godwin, tu vois. Je me suis dit, couche-toi Alex, hein, c'est ce que t'as de mieux à faire. Vous connaissez la suite, le discours, les étudiantes, les applaudissements. Dommage que Laurence Bloch était pas là. Elle m'aurait peut-être reconnu ce matin. Allez, bon week-end, monsieur. Yeah, bon. Très très bon.
T'es bon ça.
Et on retrouve Alexis au point virgule.
Attends,
mais écoute, dire, maintenant.
Je vais chanter Laurence.
Respecte. Bob.
Ouais, mon respect à moi, il va vous.
Voilà.
J'étais sûr de ça. Je veux vraiment que je réponde.
J'étais sûr de ça.
Non, mais Guy, non, là. C'est son moment.
Qu'est-ce que c'est bon, ça.
Ouais.
Jeudi, vendredi, samedi, point virgule, 19h.
T'as failli faire
Alexis,
dans le tempo, t'as vu?
Ouais.
Chaloupé. Merci Alexis aussi. France Inter, Maggie, la bande originale. À propos justement, tiens, d'Internet et des clics et de la manière dont Alexis Le Rossignol expose des enfants à Internet, quel est votre rapport, vous, aux réseaux sociaux, à Internet, et est-ce que vous interdisez vos enfants d'avoir des ordinateurs, des portables?
Non. Il y a un contrôle parental, bien sûr, mais non, parce qu'il y a quand même des choses qui sont super. Moi, par exemple, ma fille, elle a 11 followers, mais elle a sa petite chaîne YouTube où elle montre un peu les dessins qu'elle fait, comment il faut maîtriser la gouache. C'est très mignon, c'est très joli, je trouve ça super. Du coup, elle fait appel à son imagination et toutes les semaines, elle veut poster quelque chose. Ça dure 152 heures, je ne sais pas qui l'a regardé en entier. Moi, je regarde partiellement. Mais elle aime bien.
Ouais.
Et pour mon fils, oui, c'est vrai que c'est plus du compliqué. Dès qu'ils deviennent ados, c'est plus compliqué. Justement, ils veulent regarder, je sais pas, un perroquet qui s'appelle Rocco, il tombe forcément sur Siffredi. Donc là, il faut faire gaffe, quoi. C'est compliqué.
Faut rester vigilante.
Ouais, mais c'est toujours le pendant d'une chose qui est jolie, quoi. Et ça, il faut leur faire comprendre, leur dire, bah oui, tu vas tomber dessus, je suis pas flic. Donc c'est à moi de lui donner des outils en disant, tu
te méfies. Non, mais vous êtes maman, c'est à vous de donner les limites.
Donc je donne les limites, ouais. Mais je ne peux pas être derrière tout le temps. Donc il y a un contrôle parental, mais aujourd'hui, ils savent craquer n'importe quel téléphone. Enfin, moi, quand j'ai un problème sur mon ordi, je l'appelle, donc c'est pas moi.
Et puis il regarde l'historique, il dit, maman...
donc, c'est vrai que je ne les fasse jamais.
Je laisse aller à regarder les
perroquets. Donc j'ai intérêt d'être clean. Hein. Si je ne sais même pas comment on les fasse.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça.
Sylvie Testu est notre invitée. Demandez à Alexis Rossignol, lui, c'est... Sylvie Testu est notre invitée, elle est au théâtre Édouard VII. Je voulais citer également Suzanne Clément, en plus de Roxane Durand, parce que je trouve que les femmes ont le beau rôle dans le jeu. Elles sont très présentes, elles sont
elles sont mises à l'honneur. Ouais.
Ouais, exactement.
Bah oui, parce que c'est elles. En fait, le duel se passe entre elles deux. C'est elles deux qui mettent le problème.
Suzanne Clément et vous.
Voilà, en avant, la marquise, la comtesse, donc Suzanne et moi, et les deux hommes, en fait, finalement, font un duel, mais pas plus par ricochet. C'est-à-dire que eux deux seraient presque plus prêts à être alliés dans cette histoire. Si ce n'est que le chevalier, moi je l'appelle Don Corleone parce qu'il a un côté un peu, acteur de film américain, mafieux. Il a un petit côté comme ça, quoi. Et il lui tape sur l'épaule, il dit, écoute, hein. On va pas s'en tenir rigueur, je suis plus fort que toi, quoi. C'est très clair. Alors qu'elles deux, elles sont plus dans l'intelligence et dans l'intrigue.
Et le courage. Elles ont le courage.
Elles ont le courage. Et du coup, c'est vrai qu'on les voit plus et que c'est surtout elles qui sont. C'est là où je rejoins un peu ce que vous dites. Oui, c'est une pièce qui parle des femmes, qui a beaucoup de féminisme à l'intérieur, mais en même temps, pas tant que ça. C'est qu'à un moment, donc, ils trouvent que l'intelligence des femmes est parfois perfide.
Ouais.
Donc c'est ça qu'on met devant.
Est-ce que cette pièce de vous retrouver sur scène à faire rire le public, à s'habituer justement au rythme d'une scène comique, est une bonne surprise pour vous? Parce qu'on vous a pas souvent vu dans des pièces de théâtre.
Ah oui. Au début, il a même fallu que je sois ultra concentrée parce qu'en fait, les premiers rires, j'ai fait éclater derrière moi-même. Je suis sacré. Je savais plus ce qu'il fallait faire. Je regardais la personne en face, je me disais, oh là, mon Dieu, ça part. Là, je sais plus comment on tient le truc.
C'est vrai que pourquoi on vous a jamais proposé de faire la rigolade puisque vous l'êtes dans la vie?
Mais c'est souvent, en fait, de nouveau un paradoxe. C'est souvent, les gens drôles dans les coulisses sont pas forcément les plus drôles face à une caméra.
J'oublie un détail important. Vous êtes une très bonne comédienne. Donc, à la limite, on peut pas se poser la question de savoir est-ce que vous êtes capable de jouer un rôle comique, un rôle dramatique, le rôle d'une folle, le rôle d'une ingénue.
Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas.
C'est fou, non, mais c'est dingue.
Oui, les gens vous identifient comme ça. Moi, je fais partie des gens.
Vous avez quoi, la carte un peu trop chic, donc
je ne sais pas.
On lui demande pas de
non,
faire
je ne
théâtre.
Sais pas parce que du coup, non. Au moment de la comtesse, on s'est posé la question de savoir si je n'étais pas trop roturière, par exemple.
C'est vrai. Ah, carrément.
Donc je fais quand même, un personnage populaire, quoi. Même si, on me donne souvent des personnages qui sont plus lourds, plus denses que celui que je suis en train de faire, quoi.
Et plus moi, social. C'est vrai.
Voilà. Moi, j'ai pas envie de m'interdire de choses, mais après, je ne choisis que dans ce qu'on me propose. Voilà.
Et donc là, vous êtes heureuse de faire rire.
Je suis ravie. Je suis ravie. À part ça, il me l'avait proposé, hein. Je dois quand même le dire. Il y a un peu plus de 10 ans, Ladislas Chola, cette pièce. Et j'y étais pas allée.
Il y a 10 ans, même metteur en scène vous a proposé la même pièce.
Oui.
Ah, il était têtu, lui, hein.
Oui, alors après, c'est pour cette saison, il m'avait proposé un autre texte que j'ai lu, que j'avais pas envie de jouer. Il m'a dit, écoute, souviens-toi, il y a 10 ans, je t'ai proposé ça. Est-ce que tu veux bien la relire? Et je m'étais dit, Marivaux, peut-être ça va être trop empoulé, je ne sais pas si je vais réussir à me débarrasser du texte. Enfin, bref. Je l'ai relu. Et j'ai dit, ça me tente, on va essayer. Mais je suis partie un peu avec le trac, hein, quand même, avec un stress, en me disant, est-ce que je vais réussir à faire, non pas raisonner des mots, mais des émotions. J'avais peur que le texte soit plus fort.
Rassurez-vous, ça fonctionne, ouais.
Et
c'est réussi.
Quand vous dites on va essayer, ça veut dire on fait un test ou alors parce que là vous
êtes parti. Non, j'ai dit oui. Essayer si je rate, je rate à vue quoi.
Et subir un comme ça tous les soirs 4 mois une pièce qu'on a plus envie de jouer, ça doit être quand même terrible. Mais
c'est pour ça que j'en fais une tous les 10 ans quoi. Il faut être sûr.
On va reparler évidemment de cette pièce au théâtre Édouard VII, l'heureux stratagème avec Sylvie Testu. Mais si tu écoutes de la musique, par exemple en 89.
On est très reggae aujourd'hui.
Très.
C'est vrai, tiens.
C'est vendredi. Alpha Blondie, vous avez quelles images en réécoutant cette musique? Vous voyez où, comment, avec qui?
Je me vois avec mes potes. Moi, j'habitais les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.
À Lyon, oui.
Voilà, c'était les premiers moments où on avait un peu le droit de sortir. On écoutait Alpha Blondie à fond. On faisait ouh ouh dans toute la rue. Enfin, on était une petite troupe un peu cool, quoi.
Et en 89, vous venez à Paris.
Voilà.
Vous vous inscrivez en fac d'histoire parce que c'est la discipline peut-être la plus
large.
C'est large.
C'est un non-choix.
Ouais.
Voilà. Justement, parler de portes à ne pas refermer, j'avais envie de pas du tout en fermer. Je ne savais pas lesquelles j'ouvrais, mais je ne voulais pas fermer les autres.
Ouais. C'est une histoire d'avoir une carte d'étudiante, d'être inscrite. Ça rassure un peu, ça.
Oui, ça rassure. Et puis, puis bon, après, on peut choisir différentes voies. Enfin, c'est pas non plus une voie de garage, hein, l'histoire.
Non, bien sûr.
Donc, voilà, je voulais pas faire médecine, ça, je le savais. Je voulais pas faire de droit, je le savais. Je voulais pas faire de maths. Bon, moi, je me suis dit, l'histoire, au final, ça parle des êtres humains. C'est bien, j'avais. Quelque part au fond de ma tête, un jour, peut-être je vais essayer de faire du théâtre, on verra, mais bon, c'était compliqué.
Ouais, et vous arrivez à vous inscrire au cours Florent, moyennant des petits boulots qui font que vous ne payez pas l'inscription en entier, quoi.
C'est... Voilà, non, mais surtout, ils ont été très aimables, ils m'ont accueilli à la classe libre, qui est une classe non payante.
Mm-hmm. Ah,
donc, du coup, j'ai pu passer le conservatoire, mais j'avais d'abord commencé à tourner.
Il faut préciser qu'il y a deux cours Florent, celui qui est payant. Très cher.
Pour les mauvais.
Très cher. Et
la classique pour les bons.
Et enfin, pour les mauvais, pour ceux qui n'ont pas été choisis. Et ceux qui sont choisis, on dit ok, vous êtes tellement bon que vous, c'est pas la peine de payer, on va travailler ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Hein.
Je sais pas si c'est toujours les meilleurs, mais bon, on va dire ça comme ça.
Dans les mauvais, parce que je paye. En fait, la classe libre, il y a des examens, enfin des tests, des auditions en janvier.
Oui. Voilà.
Donc, entre septembre et janvier, tout le monde est un peu en tronc commun. Quoi.
Non, mais c'est ce que j'appelle la qualité. C'est-à-dire que les tests, justement, c'est pour déceler ceux qui seraient peut-être des perles rares, de dire, exactement. OK, vous.
Ils en choisissent une dizaine, quinzaine. Hein,
ouais, peut-être.
Mais vous avez commencé déjà à tourner au préalable.
Oui, en fait, alors à Lyon, moi j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du théâtre. Genre, j'étais le répétiteur, moi, à l'époque. J'avais fait quelques cours avec eux. Bon, de nouveau, c'était beaucoup d'argent. Bon, bref, voilà. Et en arrivant à Paris, j'ai deux, trois amis.
Pardon, voilà, c'est quand même le nerf de la guerre.
Ouais, ouais.
Bah, si.
Oui, c'est vrai que bon, ben voilà, mais on s'en sort quand même, on peut y arriver.
Ouais, oui.
Voilà.
C'est bien de le dire.
C'est vrai que sans être trop misérabiliste, c'est beaucoup d'argent pour une mère seule qui a élevé trois gamines. On va dire ça comme ça, voilà. Dont une de ses enfants va habiter Paris, ce qui est terrible.
C'est une folie, ouais.
Donc je ne pouvais pas en plus demander.
Le coût de la vie est en dingue en plus.
La folie.
Ouais.
Donc moi j'ai fait un peu beaucoup de petits boulots quand même. Moi j'étais serveuse la plupart du temps, j'ai fait, vous savez, des enquêtes au téléphone, un peu tout quoi. J'ai fait ouvreuse à Roland Garros aussi. C'était en patin roulette à l'époque.
C'est pas vrai.
Ouais.
Sur la terre battue, comment ça roule?
Non, pour placer les gens.
Ah d'accord.
Non.
Pas pour jouer.
Non, je ramassais pas les balles.
Est-ce qu'on apprend de tous ces petits jobs-là? Est-ce qu'on observe justement? Est-ce qu'on apprend pour être comédienne? Est-ce que ça sert de voir tous les métiers possibles et imaginables en peu de temps?
Oh, je pense que tout sert de toute façon. C'est en fait, nous, on ne retranscrit que la vie. Quand on est acteur, on n'apprend pas à faire les choses. On apprend pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne marche pas quand vous tapez avec tous vos doigts en même temps sur un clavier? C'est qu'on comprend que vous n'avez jamais tapé sur un clavier. Donc, si vous n'avez jamais tapé sur un clavier, autant écrire une petite lettre, vite fait, comme ça.
C'est ça.
Donc tout sert, au final. Et donc voilà, en fait, pour finir, pour répondre à la question, un de mes amis avait une audition chez un agent. Bon, quand on a 18 ans, enfin voilà, ça se passait plutôt pas mal physiquement pour moi. Bon, elle a dit, je peux prendre les deux. Donc je suis entrée chez un agent qui m'a fait faire un film. Et voilà, j'ai adoré. Donc je me suis inscrite au cours Florent qui préparait au conservatoire. Et je m'étais dit, si je n'ai pas le conservatoire, j'arrêterai. Voilà. Et je l'ai eu, alors je suis restée.
Et comment arrive le film allemand?
Ben voilà, justement sur cette première audition chez un agent qui est au courant d'un film franco-allemand. Au-delà du silence, je vais à l'audition, je suis choisie, très bien, et il y a un acteur allemand et moi, et finalement la production française décide de se retirer du film, et le réalisateur m'a gardée, je me suis retrouvée actrice principale d'un film allemand.
Il faut dire que quand il y a des coproductions franco-allemandes, chacun apporte entre guillemets une partie soit de la technique, soit du plateau artistique.
Voilà.
Et si la coproduction tombe à l'eau, normalement les comédiens partent avec.
Exactement.
Il ne reste pas. Là, il vous a gardé.
Il m'a gardé.
Parce que vous parliez allemand ?
Non,
non.
Moi, j'avais pas fait d'allemand. Non, j'avais fait chinois, moi, carrément.
Et donc, vous avez joué en français devant un acteur allemand.
En fait, ça se passait pendant la période napoléonienne, ce qui à l'époque était à la mode en fait de parler allemand, russe, français. Le français étant une langue
la
très
langue
chic
européenne
à l'époque. Ouais. Donc moi, j'avais quelques phrases d'allemand. Donc on m'avait donné un coach. Et sinon, je parle en français.
D'accord.
Et eux parlent en allemand, ouais.
C'est la même chose qui est arrivée à Pétain, hein.
Mais c'était pas la même période. En 99, Sylvie Testu, écoutez.
Mais toujours ça.
C'est culte. Qu'est-ce que c'est bon ça?
C'est un.
David Bowie, Starman, c'est votre artiste préféré de tous?
Oui, parce que j'aime tout. J'aime sa musique, j'aime...
Surtout, il n'a jamais fait deux fois la même chose, en plus.
Oui, China Girl, tout ça, enfin...
C'est ça.
J'aime le type, j'aime sa voix qui parfois part dans ses chansons. Souvent, à la fin, on se dit, oh, il a la limite, il est on the edge, quoi. Et j'adore ça. Je trouve qu'il a une élégance folle. Et que quelque part...
Sexy aussi.
Ouais, puis c'est un des premiers artistes où j'ai identifié qui disait, je te donne le droit de penser ce que tu veux de moi, c'est comme ça. Il n'a jamais forcé le regard de l'autre, je trouve. Et c'est une grande élégance.
Il a même provoqué aussi le jugement ou les préjugés.
Oui.
Il était dans la provocation.
Il était dans la provocation.
Mais la provocation artistique, pas
mais
simplement
artistique,
pour le.
Voilà, pas pour
le plaisir de choquer.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de volontarisme là derrière et j'aime bien ça. Je trouve que
Pour l'anecdote, on va pas parler de notre vie en permanence, mais hier soir, quand j'ai eu le plaisir d'aller vous saluer dans vos loges, vous m'avez présenté l'assistant
de Stardust.
L'assistant de Ladislas Cholo, Eric, je crois. De mémoire.
C'est Chola.
Ouais. Chola.
Cholo.
Non, mais c'est.
Cholo. Non, mais le bout du rond, excusez-moi.
C'est très bien,
j'ai envie de dire.
Tu peux parler, toi, avec l'Orange Bloc.
T'avais un partout, c'est bon, continue.
Et donc, vous me l'avez présenté en disant voilà Ziggy.
Il lui ressemble ou pas?
À David Bowie?
Mais un peu.
Non, vous avez pas dit Ziggy, vous avez dit Stardust.
Stardust, ouais. Mais un peu. J'étais fascinée.
Il est beau gosse.
Il est très long, très blond, et. Et voilà, et j'ai son cadeau de première d'ailleurs, je suis allée acheter une assiette sublime dans laquelle il y avait une photo de David Bowie en Stardust comme ça.
Une assiette David Bowie en cadeau?
Mais ouais.
On trouve ça où?
Oui. Au bon marché.
Ah ouais. Au Sopunk. Qui honore des camemberts, hein. Rappelons-le.
C'est important d'avoir si vite et comme copine.
Attention, hein, c'est une assiette vide poche, ça n'est pas une assiette dans laquelle on doit
pardon,
se nourrir.
Mais pardon.
C'est une assiette petite... à soupe.
Oui, comment ça s'appelle? C'est pas une assiette, c'est une coupelle, quoi.
Vite poche.
Il est en forme d'assiette quand même, malgré tout.
D'accord.
Il est rond, quoi.
On est en 99. On vous a quitté avec ce premier film allemand. Vous avez fait une grosse carrière en Allemagne au point que, en France, on vous connaissait pas.
Oui.
Vous étiez même sur le point de vous installer définitivement en Allemagne, d'acheter un appartement. Mmh. Quand on vous a appelé pour un scénario en France?
Voilà, c'est ça. Bah, j'étais en train d'acheter un appartement en Allemagne. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, je vais devenir une actrice allemande. En France, on ne me propose rien, c'est comme ça. Mmh. Et puis Berlin, finalement, ça me plaisait bien. Je commençais à avoir plein de potes. Et puis surtout, on s'intéressait à moi, quoi. Mmh. Et on m'a proposé Carnaval. Donc Thomas Vincent faisait un casting, mais là de nouveau c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de chance, c'est pas toujours les meilleurs qui arrivent, c'est que il avait auditionné tout Paris et moi il n'arrivait pas à m'auditionner parce que j'étais tout le temps à Berlin. Je suis la dernière qu'il ait vue. Et je pense qu'il devait en avoir un peu réussi.
Je la prends.
Oh bah elle est pas mal, tu en vas prendre celle-ci.
En 2003, Sylvie Testu, vous écoutiez. J'aime bien votre BO.
Ah, c'est bien.
Ah, elle va bien. Soul Tambourine, Betty Lavette, on est en 2003, Leïla.
Et on passe à l'écriture avec un premier roman. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir, un premier roman autobiographique. Vous racontez que vous n'étiez pas du tout une élève, une enfant qui écrivait un journal intime ou qui avait une production écrite. Comment on en vient à l'écriture alors, à l'âge adulte?
Moi j'y suis venue par l'ennui. C'est-à-dire que dans les. Quand on tourne, on est souvent dans des hôtels un peu. Bon voilà. Là j'étais dans un hôtel un peu chic où il y avait un casino, il y avait un golf. Alors ni je vais au casino, ni j'aime le golf. Bon, toute l'équipe allait golfer tout le week-end. J'étais pendant 48 heures toute seule dans ma chambre d'hôtel. Et c'était mon premier ordinateur. Et je me suis mise à raconter un peu, pas pour faire un livre, à raconter mes journées. Enfin, c'est exacerber les relations sur les plateaux. Oui. Pour un bas filet, tout le monde devient fou. Enfin, on a l'impression que la Tour Eiffel s'est effondrée. Enfin voilà, mais on en a besoin, nous. Parce que sans ça, on peut pas tourner. Mais parfois, c'est dérisoire. Et donc, je m'amusais à faire ça, puis je les envoyais à mes potes à Paris. Et puis, un jour, c'était Marine Selle, à l'époque, qui était en charge de Pauvert, des éditions Pauvert, qui lit ça et qui me dit « Si tu développes, je t'édite ». Et ça m'a plu, le challenge, et je l'ai fait. Et au final, j'ai adoré ça.
Est-ce que vous ressentez... Ouais, absolument. Est-ce que vous ressentez auteur aujourd'hui? Ce que vous dites, moi, je suis actrice, auteur.
Oui, je suis auteur, mais... encore une fois, j'ai pas envie de faire de la littérature. Je ne ferai jamais un roman. J'ai envie de raconter les choses comme je les vois, moi, avec un détail où je me dis, je suis sûre que tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a noté. Mm-hmm. Je vais le mettre devant. Parce qu'en fait, ce qui me plaît...
Ça, c'est la littérature.
Oui, non, mais la littérature, il y a aussi un moment, on commence... Enfin, moi, chaque bouquin commence comme ça. J'écris beaucoup trop de pages et ensuite, je le réduis. Parce qu'on se fait plaisir aussi dans la littérature à décrire une chose qu'on a trouvée belle. Mais bon, ça intéresse personne.
Oui, mais c'est faire ressentir aux gens des choses qu'ils ressentent eux-mêes sans s'en rendre compte.
Oui,
ce qui est propre de toute forme d'art, que ce soit la peinture, la sculpture.
Moi, en fait, ce que je veux, c'est enlever au maximum, justement, l'écrit pour qu'on entende le texte. C'est comme si j'invitais quelqu'un, je dis, tiens, on va passer une heure ensemble, je vais te raconter deux, trois conneries que j'ai vues. Pas plus que ça. Et ça, c'est un travail assez difficile, au final.
On va continuer de parler avec Sylvie Testu, qui est notre invitée, qui est à l'affiche, je rappelle, au théâtre Édouard VII de l'heureux stratagème de Marivaux. Cécile Guéret, bonjour Cécile.
Bonjour.
On se sent aidé ici. Vous êtes journaliste spécialisée en psychothérapie et thérapeute gestalt.
Aïe aïe aïe, bravo. C'est imprononçable. Gestalt.
Ah, gestalt. Ah, c'est encore de l'allemand. Oui. C'est encore de l'allemand, très bien. C'est une approche de l'individu, c'est ça en... Expliquez-nous cette approche.
Oui, c'est une psychothérapie. Une psychothérapie dans laquelle on regarde la manière dont la personne est en relation avec son environnement. Donc son environnement, c'est les personnes qui l'entourent, c'est l'environnement au sens large, hein, ça peut être la nature,
social,
l'environnement social, voilà.
Physique,
voilà. Et dans la séance de thérapie, c'est le psychothérapeute, donc on travaille beaucoup sur la relation entre le patient et le thérapeute.
Alors, pour prendre l'un des axes, parce qu'il y a plusieurs prismes dans la pièce de Marivaux, l'un des axes, c'est autour de la reconquête de l'ex, et puis on fait tout pour le ou la reconquête. Est-ce que c'est une bonne idée d'abord de retourner vers son ex?
C'est une bonne idée si on l'aime. Je pense que c'est un petit peu un préalable.
Il faut être deux pour aimer.
Exactement, voilà, si on a envie de refaire quelque chose ensemble. Ce qu'il y a dans le fait de renouer avec un ex, à la fois il y a du familier, donc ça c'est sécurisant.
On connaît le terrain.
On se connaît bien, on a déjà vécu des choses ensemble, donc il peut y avoir de la complicité. La difficulté, et peut-être le piège même, c'est que du coup, justement, on se connaît bien et peut-être on croit un peu trop connaître l'autre. Peut-être on croit un peu trop se connaître dans la relation avec l'autre. Et donc la difficulté, c'est de laisser cette relation-là ouverte à de la curiosité sur l'autre, à de l'inattendu, à quelque chose de nouveau qui pourra advenir entre nous.
Oui, le paradoxe d'ailleurs, et c'est ce qui se passe aussi au début de la pièce, c'est-à-dire l'excitation, l'envie de découvrir ou de séduire quelqu'un de nouveau et de savoir si on plaît encore, si un amour peut naître comme ça d'une petite étincelle. Le paradoxe, c'est de retourner avec un ex, c'est exactement l'inverse. On connaît tout par cœur, que ce soit les qualités, les défauts, et même dès qu'il peut y avoir un petit incident, ça devient quelque chose d'énorme parce que je savais... Ça allait recommencer.
Et c'est l'énorme piège. Mais en fait, quand vous dites on connaît tout par cœur, non, on croit tout connaître de l'autre. Et ça, c'est le piège, mais même de tous les couples, que ce soit un ex ou pas. C'est qu'on croit tellement connaître l'autre et on croit que l'autre nous connaît tellement bien que finalement, on se coupe complètement de la nouveauté.
Il n'y a plus de surprise.
Voilà, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de nouveauté. Mais du coup, le couple, il n'est pas vraiment vivant. C'est ça qui est dommage.
Si vite et sûr, j'ai vu que vous vouliez parler.
Oui, je disais, tout à l'heure, on se disait, le fait d'être infidèle, c'est aussi quelque part dans un premier lieu, se tromper soi-même, sortir justement d'un carcan. Dans ce que vous dites là, j'entends que il y a un peu de ça.
C'est-à-dire quand vous dites... Un fidèle, c'est pas se tromper soi-même, c'est penser
qu'à... Il y a quelque part, je pense, sortir de sa vie à soi. En fait, on se comporte beaucoup comme les autres attendent de nous qu'on se comporte. C'est très clair ce que j'aime bien.
Ouais, c'est bon. Oui, ça passe.
Et en fait, c'est rapide. Hein.
on se sent jamais plus libre qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, non? Il n'attend pas qu'on se... on se connaît pas, vous comportez bien de la manière dont vous voulez. Si votre mère est là, ou quelqu'un que vous connaissez très bien, il y a quelque part une injonction de se comporter comme on attend de vous que vous vous comportiez. Mmh. Et dans le tromper, je trouve qu'il y a ça qui saute.
Ouais, c'est la découverte.
Je suis pas en train de faire l'apologie de la stupidité.
Ouais, hein. C'est ça. C'est
si, un peu. Hein.
Que dit la psychothérapeute?
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et en même temps, pour certaines personnes, justement, cette liberté-là, elle peut être terrorisante. Parce que c'est extrêmement difficile de se définir, de dire qui on est sous le regard de l'autre. Et donc, pour certains, justement, d'être dans un terrain connu, d'être avec des gens qu'on connaît bien et à qui on n'a pas encore à prouver qui on est, c'est extrêmement sécurisant, c'est réconfortant, il n'y a pas de danger. Et c'est ça aussi qui est enfermant, c'est que du coup, nous-mêmes, on ne se renouvelle pas.
Et alors, se servir de la jalousie comme d'un moteur?
Bonne ou mauvaise idée? Diagnostic?
Très bonne idée. Bah, c'est vrai.
Bah, en fait, je dirais, ça dépend du couple, ça dépend de soi, mais je crois que dans ces stratagèmes-là, ça dépend aussi du couple qu'on a envie de construire. C'est-à-dire que si on construit un couple où la jalousie ou la manipulation, ou en tout cas l'envie de titiller l'autre est le moteur du couple, pourquoi pas, mais
ça peut être fatigant quand même.
On n'est peut-être pas dans une relation aussi authentique que celle qu'on aimerait. C'est effectivement pas reposant. Donc ça dépend aussi. Puis ça peut être des périodes aussi dans le couple. Il y a des moments où on peut être comme ça à un moment du couple. Et puis on change, rien n'est figé et ça peut se transformer dans la relation à l'autre.
Faire ressentir à l'autre que c'est pas gagné pour la vie, quoi.
Ça c'est pas pareil.
Qui se méfie? Non mais si.
Non, ça c'est pas pareil.
Si, d'une certaine forme.
Non, de là, tu as des messages à faire passer.
Non, mais pas du tout. Non, mais tout va bien. Mais donner la sensation
de dire que rien n'est acquis.
Pas montrer à l'autre rien, mais voir que l'autre se rende compte que finalement la personne avec laquelle il vit, elle est aimable, elle est appréciable par d'autres, ça lui donne quand même la sensation qu'il est avec quelqu'un de précieux, et donc il doit y faire attention.
Oui, mais ce qui est terrible, c'est d'avoir besoin de rendre jaloux pour ça.
Non, mais pas besoin de rendre jaloux, il suffit qu'il regarde.
Et de l'informer.
Mais pourquoi faudrait-il mettre un tiers?
Il doit faire des tutoriels sur YouTube.
Il y a de l'offre, hein.
Non, en fait, elle dit jalousie, mais ça veut dire alerte, c'est pas une jalousie maladie. Si c'est garder la personne en alerte.
On peut aussi regarder.
Aujourd'hui, j'ai mis des godasses, mais pourquoi tu sors? Oui, je vais manger avec une copine. Et stop.
Ouais. Oh, les manipulatrices, j'en rêve.
Non, c'est pas très fair de faire ça.
En tout cas, la lumière est faite sur des siècles d'oppression masculine et ça, je suis conscient que ça arrive un jour.
Tout à l'heure, les deux femmes présentes autour de cette table, Sylvie et Leïla, ont dit penser à tromper, c'est tromper. Que dites-vous, vous, Cécile?
Effectivement, ça dépend des gens. Je peux entendre
ça. Arrêtez de dire ça dépend. Non, mais prenez une décision, donnez une réponse.
Parce que je peux autant entendre ça pour les personnes que j'accompagne en psychothérapie. Rien que d'y penser, rien que d'avoir l'idée d'envie de plaire à quelqu'un d'autre, c'est déjà trompé. Par ailleurs, j'entends aussi des personnes me dire, je suis allée au sex shop ou au peep show, mais ça, c'est pas trompé. Donc, je pense qu'on a chacun nos limites.
C'est vrai, c'est une boutique.
Voilà, donc, je pense que ça dépend des gens. Et c'est que sexuel. C'est que sexuel, c'est pas amoureux.
C'est pas sentimental,
oui. En fait, c'est vraiment chacun en fonction de soi, en fonction de son propre cadre, et puis en fonction aussi de ce qu'on a convenu avec l'autre. Hein. C'est-à-dire que dans un couple, on est deux, donc on définit ensemble.
Le nombre de fois où j'ai voulu que Nagui meure, et au fond, non, je ne suis pas content qu'il soit là.
Ça finira par arriver, t'inquiète pas.
Ouais.
Les réseaux sociaux viennent plutôt mettre de l'huile sur le feu dans les relations sentimentales aujourd'hui?
Oui, ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que on est quand même dans une image assez idéalisée de soi. On est dans une mise en scène de soi. Et ça, du coup, on est un peu dans le faux. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on vit. Il n'y a pas d'authenticité. Et c'est ça qui est compliqué, du coup, dans la relation amoureuse après. C'est que c'est comme si on loupait un peu une marche. C'est-à-dire qu'on se montre un peu au top de soi-même sur les réseaux sociaux. Enfin, je dis les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi sa fiche de présentation sur les applis ou les sites de rencontres. Hein. Ouais. C'est un petit peu la même chose. On se montre au top de soi,
sous son meilleur jour.
Mais du coup, la rencontre avec l'autre, ça peut faire un peu l'effet d'un vertige, parce qu'on n'est jamais aussi drôle que quand on chatte sur les réseaux sociaux. On n'est jamais aussi beau que sur sa photo de profil.
On n'a jamais le filtre en permanence.
Et voilà, on n'a jamais le filtre en permanence sur soi. Donc c'est un décalage, mais en même temps, c'est ça qui est beau, parce que c'est là qu'on rencontre rencontre, la vérité de l'autre, son authenticité, ses failles et ce qui est intéressant chez la personne.
C'est pareil quand on se rencontre dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est rare quand même qu'on se montre sous son plus mauvais jour un premier rendez-vous.
Sauf que sur les réseaux sociaux, tu racontes vraiment des histoires. Tu peux être totalement mytho aussi certains profils.
Tu en parles bien, je trouve.
À côté de la plaque. Oh, moi, tu sais, moi, je suis un livre ouvert. Cécile Guéret, merci d'être venue.
Merci beaucoup, Guéret.
Merci mille fois. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, vous allez nous parler notamment de la corrida.
Oui, la corrida, c'est cette espèce d'énorme soirée tapas lors de laquelle la chaîne du froid n'est pas respectée, puisqu'on y découpe le bestiau vivant au lieu de l'endormir, puis le congeler comme on l'a fait pour Gérard Collomb. Un projet de loi propose d'interdire la corrida aux mineurs, Nagui, ce qui ne change rien. Il ne va pas y avoir de version adulte de la corrida avec une scène de sexe à la fin, bien sûr. C'est donc une mesure inutile.
On en reparle après les infos de midi. Oui. Albert Agou, Frédéric Sigrist, Tanguy Pastureau, Alexis Rossignol et notre invité Sylvie Testu.
Bravo.
À l'affiche d'un Marivaux, c'est la première fois qu'on peut dire Sylvie Testu à l'affiche d'un Marivaux. Vous n'avez jamais joué de Marivaux?
Non. Jamais, et puis je fais pas beaucoup de théâtre non plus, et là je suis folle de ce texte, quoi. Je l'adore, j'ai mis beaucoup de temps à le maîtriser, c'est un peu comme une partition de piano un peu compliquée, quoi. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est vraiment, ça porte.
C'est une partition de piano, mais surtout quand on est 8 sur scène, c'est un véritable orchestre philharmonique où chacun doit, dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ses répliques, jouer avec les autres, mais au sens encore plus poussé du terme, parce que il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des surprises, enfin il faut pas...
Et puis chacun, en fait...
Il y a des marches d'escalier avec des talons.
Il y a des marches d'escalier avec des talons, et qui, je dois quand même le dire, sont plus petites que mes pieds.
Ça c'est drôle.
C'est quand même une blague, non?
Ça c'est très drôle.
C'est quand même une blague.
Donc, je descends descendu.
De profil, en essayant de garder un peu de style.
Mais ça aide à la démarche, je trouve.
Très bien. Ah, mais oui, on en a fait quelque chose. Mais voilà, en fait, c'est ça. Il faut faire une force de tout dans ces cas-là. Je me souviens, moi, j'avais fait un oratorio, j'avais fait Jeannot Buchet. Il y avait tous les musiciens sous la scène, ça tremblait. Et au début, je me disais, oh là là, je serai jamais aussi forte qu'eux. Et en fait, il ne faut pas se battre contre, il faut se laisser porter. Et c'était un truc formidable. À un moment, je me disais, oh, je ne pourrais plus jamais jouer sans la musique. Et là, maintenant, c'est l'inverse. C'est... le texte classique, je me dis, ah bah, à quoi bon jouer un contemporain? Ouais, salut, passe-moi le sel, ouais, fais ça. J'ai l'impression que je pourrais pas.
Parce que d'un coup, pourtant, c'est dommage, c'était bien ce que vous venez de faire. Salut, passe-moi le sel,
et attendez,
je le
tenais. J'ai même pas encore dit que j'avais salé mon steak.
Non, bah non. Là.
Ouais, j'ai salé mon steak, ça y est.
Ah, yeah,
c'est
bon.
Aussi,
oh là là. Tout faire.
C'est vite et su.
Vite et su.
Je préférais manger la moutarde.
Moi, je préférais Jeannot Buchet. Hein, vraiment, c'était Scarpita. En plus, à la mise en scène, c'était.
Le stratagème, Ladislas Chola fait la mise en scène. Sylvie Testu est sur scène. Ils sont 8 sur scène. On en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, voici Tanguy Passion. Tanguy, c'est dur de changer ses habitudes.
Oui, parce que la vie est une chienne. À n'importe quel moment, on peut claquer. On est là à regarder plus belle la vie quand soudain, on a une énorme douleur au cœur. Et on a juste le temps de crier à son conjoint « Ma grosse loutre, rends-toi utile pour une fois, zappe sur Arte pour que la famille pense que j'étais pas si con. » La vie est fragile. Et pour ne pas y penser, on fait comme si on allait durer aussi longtemps qu'une chemise à jabot de 1830 qui aurait été rachetée chez Troc 3000 par Laurent Voulzy. Donc on se construit un assemblage d'habitudes. Un seul sucre dans le café, la pratique du ping-pong, l'achat de boxeur plutôt que de slip, ce qui est compréhensible car on s'y sent tellement mieux, nous les hommes, en liberté. Quand je porte un boxeur, j'ai l'impression d'être Nelson Mandela en 90 quand on l'a laissé sortir de toile. Ça rassure les habitudes. Regardez en Corée du Nord, chaque chef d'État est là pour 52 ans. Et bah ça apaise la population, qui peut mourir de faim en toute sérénité. Certains clamsent dans la position du lotus. On les retrouve 2 mois après, tout sec, impossible de les replier. Ce qui fait qu'en Corée du Nord, tous les cercueils sont de forme carrée. Moi qui suis un rétrograde coinsos. Le truc le plus rock que j'ai fait, c'est signer Inter après votre coup de fil, Nagui, me suppliant, je cite, de rebooster une tranche clairement en fin de parcours. Albert Algou, avez-vous ajouté dans l'émission depuis 34 ans, tous ceux avec qui il a commencé sont morts de vieillesse. Eh ben, je suis un homme d'habitude. Si c'était moi, on aurait le même invité tous les jours. Sylvie Testu, par exemple, qui est agréable et propre. On a plaisir à faire une chronique à ses côtés, d'autant qu'elle en comprend le contenu, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais non, il faut que chaque jour on change, on papillonne, dans un grand écart que seule une star du X ayant subi une ablation des adducteurs pourrait se permettre. Philippe Lelouch, Hubert Reeves, Kev Adams, Philippe Delerme. Mais on serait mieux en Corée du Nord parce qu'il n'y a qu'un invité possible, Kim Jong-un. Tout est plus beau en Corée du Nord. Tiens, prenez la corrida. Ce jeu SM qui implique un monsieur jamais relooké par Christina Cordula, c'est bien qu'il porte des leggings moulants et des chaussettes roses, c'est atroce. On a l'impression de voir Michel Sapin au gymnase club. Et un taureau. Animal qui, a priori, prend peu de plaisir à se faire charcuter, car le taureau préfère bouffer de l'herbe nue dans un pré. Il a la même vie qu'Émeric Caron quand il se lâche un peu. On n'a jamais vu de taureau allant de son plein gré dans un donjon dire à la patronne Marie-Vonne, j'espère que ce soir il y a de beaux salauds, parce que j'ai envie de m'en prendre plein la teuté. Hein, on part sur un exemple de taureau qui parlerait de verlan, hein, comme nos jeunes qui souvent sentent le taureau. Non, le taureau est un être peinard qui, tel José Bové, fait respirer ses poils dans la nature. La corrida est donc amorale, car on ne tue pas quelqu'un qui n'a rien demandé, à part Francis Holm ou les toréadors qui, eux, font ça. Mais on garde la corrida pour trois raisons. Un, parce que sinon la chanson de Francis Cabrel ne voudra plus rien dire, et le climax de ses concerts, ce sera la Dame de Haute-Savoie reprise à la flûte à bec. Deux, parce que sinon, dans les arènes de Nîmes, il n'y aura plus que les soirées de la tournée Star 80, or Sabrina commence à avoir les seins qui tombent. Trois, parce que c'est une tradition, autrement dit, une habitude.
Donc d'après vous, on ne peut plus interdire la corrida.
Mais non, les gens ne voudront jamais. Dans les villes où ça se pratique, ils ont toujours fait ça. C'est comme si vous interdisiez le trading à Londres ou la 8-6 à Rennes. Donc une députée, Samantha Casbonne, va présenter à l'Assemblée une loi proposant d'interdire la corrida aux mineurs. Comme ça, le taureau se fera toujours défoncer, mais devant des adultes, qui souvent est le sésame pour une soirée réussie. Hein, Madame Casbonne dit que la corrida est un spectacle violent. Donc au lieu de l'interdire simplement, parce qu'il y a bien assez de violence dans notre société, je pense à la programmation musicale de Chérie FM, on va juste l'interdire aux mineurs. Ce qui fait qu'on a l'impression que ça bouge, mais ça bouge pas. On a tous connu ça un samedi soir après avoir bu trop d'alcool. Autre exemple, Air France. Ils ont des vols intérieurs. Hein. France, France. Alors que notre pays, sur un planisphère, est aussi petit que Sumo, le bichon des Chirac, quand sur les photos d'archives, on le voyait au pied de 100 mètres, en train de faire l'amour par l'anus au gland de ses mocassins. La sagesse, celle par exemple de Confucius ou de Valéry Giscard d'Estaing, qui a bien connu là-haut-dessous, serait de se dire, l'avion ça pollue, on y mange mal et on y projette des films de Philippe Lachaud, ça va, on annule. Et pour aller Dijon, tu prends tes pieds. Mais non, Air France a annoncé qu'à partir de 2020, ces vols seront compensés en carbone. C'est-à-dire qu'ils vont planter 3 arbres et protéger la biodiversité. Pendant que vous prendrez l'avion, un employé au sol fera du bouche-à-bouche à une grenouille pour pas qu'elle meure. La compensation carbone, c'est l'arnaque montée par ceux qui détruisent la planète pour se faire passer pour des écolos. Un vol Paris-Dubaï, pas de souci. Pendant que je me fais retirer le huc, Air France monte Compiègne 2, la réplique de la forêt de Compiègne, avec encore plus de lapins et de satyres en impair. Mais là aussi, on a l'habitude de prendre l'avion pour un oui ou un non. Mais il va falloir la perdre. Si on a pollué, la nature, elle s'en fout qu'on essaye de se racheter. Faites un Paris-Nice en avion, après vous allez vous balader dans les bois, les renards, ils vous crachent à la gueule. Vous croisez une perdrix qui vous dit « Enfoiré !» Bref, nos habitudes nous perdent. Supprimons la corrida, les lignes intérieures, faisons un monde neuf dans lequel on tentera des choses. D'ailleurs, lundi, nous ne recevrons pas Sylvie Testu.
Merci.
La bande originale.
Non, lundi, c'est Mélanie Douté et Jean-Paul Rouve qui seront nos invités, si tu veux savoir. Voici les questions concernant l'actualité culturelle en ce moment. Et peut-être, Sylvie, si vous avez envie de jouer avec nous, de trouver, vous êtes la bienvenue. Pour lutter contre le réchauffement justement de la planète, Tanguy vient d'en parler, quelle décision le chorégraphe et danseur Jérôme Bell a-t-il prise ?
Ne plus faire de tournée en avion, justement.
Exactement. Ah ouais. Exactement. Ça rejoint ce qui est dit par Tanguy Pastureau. C'est un sujet de préoccupation, je parle aussi bien à l'actrice qu'à la maman. Si vite est-ce
L'écologie.
Ouais.
Ça, oui, là maintenant ça commence sérieusement. Et puis surtout, j'ai le devoir moi de transmission auprès de mes enfants. C'est-à-dire que le tri, les choses là, c'est vrai que ça les gonfle. Hein. Ils ont envie de mettre le plastique, les déchets et tout ça au même endroit parce que c'est un temps perdu pour eux. Et ça, petit à petit, ça fait son chemin. Pour l'avion, c'est vrai que de plus en plus, on commence à se poser des questions. Moi, personnellement, en plus, j'ai peur de l'avion. Donc, je vais vous dire un truc. Moi, je le prends, mieux je me porte. Et oui, je suis alertée. Alors, est-ce que je fais tout bien? J'en sais rien. Et je pense qu'on peut faire plus. Mais oui, je fais gaffe.
Mais il faut faire.
Il faut faire. J'ai plus de bouteilles plastiques chez moi, par exemple.
Guillaume Canet est actuellement à l'affiche du film Au nom de la Terre, dans lequel il campe un agriculteur qui finit par se suicider. En quoi ce tournage a été particulier pour lui?
Il a fait une petite dépression.
Exactement. C'est-à-dire qu'il a été bouffé par par le rôle. Il vivait dans une caravane. Il a fait tellement il était impliqué par le rôle, il a fait une petite dépression. Est-ce qu'il y a des rôles comme ça qui sont qui vous mangent quoi de la tête et l'intérieur?
Moi, j'ai pas fait de dépression, mais oui, il y a des rôles qui sont très prenants. Alors, en revanche, après, moi j'avais fait un film sur les sœurs Papin. Ça s'appelait Les Blessures Assassines.
Ouais,
c'était un film pas facile à tourner, mais par exemple, j'avais la volonté de le soir de rentrer dans ma chambre d'hôtel et de lire d'autres choses. Et c'est là que j'avais découvert d'ailleurs toute la littérature d'Amélie Nothomb.
Est-ce qu'il y a quand même des rôles dont on sort pas forcément indemne?
Moi, je pense que les rôles dont on sort pas, pour ma part, hein, dont je sortirai pas indemne, je pense que c'est un que j'aurais pas fini. Vous voyez, c'est un peu, je dis souvent, c'est comme un dîner. Vous voyez, un dîner qui s'est bien passé, vous partez, puis vous dites salut, bonne soirée. Un dîner dans lequel la discussion s'est mal passée, quand vous fermez, il vous reste un petit quelque chose.
Sur le ventre.
Ouais. Et pour les personnages, j'ai l'impression que c'est la même chose. Quand vous avez l'impression que vous êtes
allé au bout. Mais c'est quoi un rôle fini?
Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez donner. On peut toujours faire mieux. Mais dans un temps imparti avec les contraintes qu'il y a, la préparation, vous dites là,
sans aller jusqu'à la psychothérapie, est-ce qu'il n'y a pas des rôles où on découvre, je sais pas moi, une facette de sa personnalité?
La violence. Ouais. Moi, j'avais pas aimé la première projection des Blessures Assassines, alors que j'ai déployé cette violence sur le plateau, je le savais bien, et je mettais toute mon ardeur et toute mon énergie. Quand je me suis vue, on n'a pas envie de voir ça. Mm-hmm. On se dit, mais, ah ouais, en fait, je suis méchante, quoi. Et sur le moment, j'avais mal réagi, j'avais dit, c'est quoi ce film? Mm. Il m'a fallu une deuxième fois. Voilà, c'est des choses, mais on a tous tout ça en nous, sauf que la différence c'est que nous, on nous demande de le sortir. On a de la violence, de la gentillesse, enfin bon bref, ça j'apprends rien à personne, mais au moment où on doit le sortir, il y a des moments où on a une tendance à, on le réfrène. Et au moment où il sort, parfois, c'est space quoi. Mmh. Voilà, faut l'accepter et on se dit, je suis loin d'être la personne que je prétends être ou que je voudrais être ou que j'aimerais aimer moi-même quoi.
Il y a des sacrés salauds à cette table.
Ah ouais. C'est pas encore sorti.
Une confidence à faire, Albert. Qui vient de traiter à la télévision Donald Trump de taré,
de Niro,
de gangster, ouais, que personne n'arrive à arrêter? Exactement, Fred. Tu l'as entendu?
Je l'ai entendu, et après on lui a même dit, et il a utilisé un langage assez fleuri pour en parler, et on lui a dit, mais vous vous rendez compte que là il y a des enfants qui vous écoutent, et on peut pas dire ça, et il a redit, mais fuck them.
Et ben voilà, écoutons-le.
This guy has done everything possible, much worse than I ever thought, ever. This guy should not be president, period. We are at a moment in our life, in this country, where this guy is like a gangster. He's come along and he's said things, done things we say over and over again. This is terrible.
Là, il est plutôt dans un discours châtié, il est propre. Voilà, et en disant qu'il, pour traduire les grandes lignes, il va beaucoup trop loin, il fait des choses totalement inimaginables, il se comporte comme un gangster, comme un taré. Il n'aurait jamais dû être président. Prise de position extrêmement affirmée.
C'est dur quand même pour Balkany de dire tout ça.
Affirmée de la part de Niro. Est-ce que vous vous exprimez, vous êtes déjà exprimé politiquement? Est-ce que vous signez, par exemple, des pétitions? Est-ce que vous êtes engagé dans un combat particulier?
Alors, je ne suis pas engagé dans un combat particulier, parce que le faire nécessiterait du temps et de l'investissement réel. Et j'aimerais faire un jour, si jamais on me le demandait.
Pour le faire sérieusement et pas uniquement pour l'image.
Voilà, c'est ça. En revanche, oui, ça m'est arrivé de signer des pétitions, ça m'est arrivé de soutenir des gens, ça m'est arrivé, dans des termes moins sévères, hein, et de dire non, j'aime pas tellement cette personne, je ne voterai jamais pour cette personne. Je fais pas de tribune, quoi.
Après, il y a le choix des films. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était pour une super série sur Arte qui s'appelait Eden.
Voilà.
Il était question de camps de détention de migrants.
Exactement.
C'est une forme de...
Voilà. Il se trouve que là, moi en plus j'ai découvert que c'était des gens qui géraient
privés.
Des camps privés. Donc rien que ça m'a bouleversé. Je me suis dit, il y a quand même un type qui s'est dit, tiens,
business,
avec des camps de migrants, je vais me faire de l'argent. Déjà ça m'a révolté sur le moment.
Clairement.
Il se trouve que ça fonctionne. Donc dans un deuxième temps, j'ai un peu avancé sur l'idée, mais au départ j'ai dit, ah, tu me proposes donc de faire une horrible bonne femme, puisque c'était moi. Et finalement c'est pas si horrible que ça. Mais au départ, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, il me propose un personnage affreux, quoi.
Sylvie Testu est au théâtre, donc dans cette pièce, L'heureux stratagème, aux côtés de Suzanne Clément, Roxane Durand. J'insiste pour souligner le talent de ces actrices à vos côtés. Il y a également Jérôme Robard, et Simon Thomas, Eric Asmocino, et tout ça dans une mise en scène de Ladislas Chola. C'est au théâtre Édouard VII, c'est drôle, et puis ça donne à débattre et à discuter. Preuve en est la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous aviez une chose à retenir, Leïla, de cette pièce et de sa morale?
De sa morale, oh là là.
Je sais pas si c'est de morale d'ailleurs.
Non, bon. Bah que voilà, l'amour ça s'éprouve, voilà.
Oui, voilà.
Également.
Hein. Cette apologie de l'adultère me dégoûte. Je conseille à tout le monde de rester chez soi et de se faire des rediffs de Julie Lescaut, c'est bien plus sain.
Albert, je dirais une pièce intemporelle. Il faut rappeler que Marivaux, il a inventé l'expression tomber amoureux et laisser parler son cœur. C'est Marivaux.
On disait pas tomber.
On disait autre chose, mais tomber amoureux.
Être en amour.
D'accord, tomber amoureux, c'est lui qui l'a inventé.
Il y a des décorateurs un petit peu facétieux qui font des escaliers trop petits pour des pieds trop grands.
Tanguy, Vassiro.
Que c'est impossible de passer après Berelgou qui a des anecdotes sur Marivaux, alors que moi, au pire, j'ai une citation d'Ophélie Winter en tête, donc je quitte cette émission.
Dieu t'a donné la foi.
Voilà, exactement.
Alexis Rossignol.
Que Marivaux, c'est un peu de la télé-réalité d'un siècle passé, quoi.
C'est pas d'aujourd'hui aussi.
Et l'actu d'aujourd'hui, voilà, l'actu geek, la pop culture, c'est maintenant avec le blockbuster Frédéric Siris.
Alors cette semaine, j'avais envie de mettre un peu de poésie dans ma vie, et donc je suis allé voir le dernier Rambo. Oui, Rambo Last Blood, ça veut dire le dernier sang. Et c'est vachement bien foutu parce que le premier Rambo s'appelait First Blood, le premier sang. Et Rambo, c'est plus une franchise, c'est un cycle menstruel. Et, en même temps, Rambo ménopause, c'était moins vendeur. Alors l'histoire, je vous la fais courte, hein. Rambo, il est devenu cultivateur. Et il a une ferme, il plante des patates, il parle aux chevaux, il gueule sûrement sur le prix du lait. Il fait quoi pour nous, le ministre Didier Guillaume? Alors j'ignore s'il est en agriculture bio, en même temps je vois pas Rambo faire de la biodynamie, mais on sait jamais. Et sur son temps libre, il va sauver des connards de randonneurs qui vont faire du camping sauvage pendant des ouragans. Ben oui, sûrement des Parisiens qui veulent se ressourcer auprès de Mère Nature. Parce que ça n'a pas changé depuis le premier Rambo, il est entouré par des abrutis. Mais mon Dieu, que les gens sont bêtes dans les Rambo. Et depuis le premier, lui, tout ce qu'il veut, c'est être peinard. Rambo, c'est Stéphane Echer avec des muscles. Hein. Il veut juste déjeuner en paix. Mais c'est vrai. Antoine et les opticiens Atoll, c'est son kiff à Rambo. Il veut être tranquille. Dans le premier, il veut traverser une ville au calme. Il y a un shérif qui veut pas. Bon, bah normal, il le défonce. Dans le 3, il a pris sa retraite. Il fait du yoga avec des moines bouddhistes. Hein. Il fait les chiens tête en bas, tout ça. Et bah, on revient le chercher pour aider des talibans à défoncer du russe. Dans le 4, il pêche en Thaïlande. Logiquement, t'es tranquille en Thaïlande. Tu vois, on va pas t'emmerder avec les obsèques de Chirac ou tout ça. Tu vois, et bah, il croise une ONG qui veut aller sauver des Birmans. Il leur dit, faut pas y aller, c'est dangereux. Ils y vont quand même. Toi, et vous savez quoi? Eh ben c'était dangereux, ils auraient battu. Rambo, c'est le genre de mec, tu lui dis que t'aimerais installer une usine de produits chimiques à Rouen, il va clairement te dire, c'est pas une bonne idée. Et résultat, à la fin, c'est lui qui va devoir éteindre les flammes en pissant dessus. Bon bah là, dans le dernier, bon, n'écoutez plus hein, si vous voulez le voir, hein, il a une fille adoptive latino qui rêve de connaître son père biologique. Bon bah Rambo, tu sens qu'avec elle, il a un peu papa gâteau. Hein. Les massacres, la torture, c'est comme Jean-Marie Le Pen reçu en grande pompe par Léa Salamé, c'est derrière lui. Hein. Il a sûrement regardé avec sa fille, mon petit poney, Miraculous Ladybug, il l'adore. Hein. En plus, elle va aller à la fac. Oh là là, faire des études, erreur fatale. Faut jamais faire des projets d'avenir dans un Rambo. C'est la règle. C'est comme dans les séries, quand un personnage qui est là depuis le début, on demande à un autre en mariage, c'est généralement le signe qui va crever avant la fin de l'épisode. Et ben Rambo, c'est pareil. Alors il lui dit,
tu sais, rencontrer ton père, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Et là, mais pourquoi?
Bah, rapport au fait qu'il frappait ta mère et qu'il vous a abandonné.
Ouais. Ah bah voilà, dès qu'on a plus d'arguments, on stigmatise l'étranger. Bravo Rambo. Résultat, elle file à Mexico et sur le chemin, elle se fait enlever par des narcotrafiquants qui la prostituent, la droguent et la tuent. Oui, bah c'est Rambo, hein, c'est pas Camping. Et là, je vous ai raconté Bernard que les 6 premières minutes du film. Ah, le reste, c'est la gestion du deuil de Rambo. Ah, disons qu'ils défoncent des narcotrafiquants. Alors, je crois savoir qu'ils ont pas aimé le film Au masque et la plume, et honnêtement, ça m'a surpris. Parce que c'est le genre de film, t'apprends plein de choses. Déjà, j'ai appris que le mardi matin, la première séance de Rambo est interdite aux femmes. Que des mecs dans la salle. Je t'assure, il y avait une trentaine, que des mecs. Je dis, c'est pas possible. Moi, à un moment, j'ai eu peur de voir débarquer Éric Zemmour. Bienvenue à notre conférence sur la disparition dramatique de l'homme hétérosexuel blanc de plus de 50 ans. Grâce à Rambo, j'ai aussi appris qu'une opération à cœur ouvert sans anesthésie, ça fait mal. Que le mur de Donald Trump pour séparer le Mexique des États-Unis, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Parce que, en l'état, dans Rambo, il y a du Chicanos qui va et vient. Hein. Ça, vraiment, il n'y a plus de frontières. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour eux. Les États-Unis, c'est France Inter et le Mexique, c'est la Belgique. Et enfin, j'ai appris que j'ai beau être contre la peine
peine de mort est de gauche, et ben le temps d'un film, Hollywood peut me donner envie d'être pour la peine capitale et de droite. Ah, moi, je voulais qu'ils les défoncent tous, hein. Alors, comment dire? Je vais pas tenter de vous convaincre que c'est un grand film, parce qu'après, vous allez me demander de résoudre le conflit israélo-palestinien, de prouver que Leïla était sobre quand elle a renversé ce flic en civil. C'est juste qu'ensuite, il y a un ami de ma femme qui m'a dit qu'il avait trouvé le film raciste. Et là, je le regarde, je suis raciste. Il me dit, bah oui, c'est un film raciste, il arrête pas de tuer des Mexicains. Et là, je dis, bah, c'est des narcotrafiquants qui font de la traite des blanches. Oui, enfin, quand même, ils sont Mexicains. Et là, je me suis dit que des fois, on allait un peu loin dans l'antiracisme, parce que, qu'à ce compte-là, aujourd'hui, t'as des gens qui vont accuser Indiana Jones d'être germanophobe. Mais tu te rends compte, tous ces Allemands qui Indiana Jones dessoutent sans même se retourner? C'est des nazis! On a quand même le droit de zigouiller des nazis dans les films! N'empêche, le vivre ensemble, Frédéric, je suis désolé, il est où le vivre ensemble de Rambo? Et bah, tout ça pour dire que, si vous ne voulez pas aller voir Rambo, ne dites pas que c'est parce que c'est un film raciste. Non, n'y allez pas tout simplement parce que c'est pas un très bon film.
Merci Frédéric Ségrist.
France Inter, la bande originale avec Maggie.
Et on retrouve Frédéric Ségrist le 17 octobre à Port-Jérôme sur Seine. Et puis de retour aussi le 14 en podcast natif avec Blockbuster.
À propos de cinéma, justement, si vous êtes su, vous êtes en ce moment au théâtre Édouard VII, mais le 27 novembre, vous serez à l'affiche du premier film réalisé par Michel Denisot.
Oui.
Toute ressemblance.
Toute ressemblance, ouais, ouais, ouais. Il s'est révélé...
Vous êtes quoi, la confidente du présentateur télé?
Ouais, c'est ça, qui est joué par Franck Dubosc. Et c'est la seule personne, en fait, qui clairement lui dit quand tu dépasses les bornes, quoi. Parce qu'il joue un présentateur télé... Enfin, télé.
Qui est quoi? Qui est le présentateur du 20h?
Le présentateur du 20h.
On va reconnaître du monde ou pas, dans le film?
Je pense que c'est un peu
accès. Oh, je pense qu'on va reconnaître un peu des gens qui ont... Ouais, voilà, qui ont entouré Michel, et puis lui-même dans ses dérives, dans ses trucs, et comment surtout lui voit la télévision, voit son métier, quoi. C'est assez drôle et c'est sombre.
Autre film également, vous serez à l'affiche le 25 décembre de Rendez-vous chez les Malawas. Alors vous qui avez vécu Rendez-vous en Terre Inconnue, vous êtes là aussi l'actrice qui se retrouve.
On est quatre. D'accord. Cette fois. Donc il y a Christian Clavier qui lui fait un présentateur télé, mais qui est devenu ringard, que plus personne n'écoute. Il y a moi qui fais une actrice un peu, c'est une pétasse, quoi, on peut le dire comme ça.
Michael Youn.
Michael Youn qui est un footballeur, et Ramzi qui lui est un mec de stand-up. Et les quatre partent et ont l'impression qu'ils vont arriver dans un hôtel super, et puis ils vont se mettre avec les gens qu'ils vont rencontrer vite fait pour la télévision, et puis qu'après ça ira. Pas du tout. C'est réellement, ils se retrouvent dans la situation dans laquelle moi je me suis retrouvée quand je suis partie avec Fred Lopez, mais eux ne l'acceptent pas du tout. C'est très drôle.
Donc la comédie, ça, ça y est, vous êtes piqué par ça maintenant. Ok, très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oula, bien sûr, et déjà désolé pour Monsieur Testu qui m'a appelé à la pause pour me confier qu'il n'en pouvait plus de ne pas être payé pour toutes vos répétitions, Sylvie. Et on peut plus, c'est vrai que c'est pas juste. Hein. Allez, courage, monsieur. Désolé pour... Ah bah encore pour Monsieur Testu qui m'a envoyé un SMS à la pause pour rappeler que vivre avec une femme qui mange du camembert au petit-déj, c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est tendu. Allez, courage, monsieur. Désolé pour... Bah pour Monsieur Testu encore, hein, qui m'a envoyé un fax pour me dire qu'il avait beaucoup souffert en entendant Sylvie faire l'apologie de l'adultère tout en se justifiant avec « Mais tromper l'autre, c'est d'abord se tromper soi-même. » Ça doit être l'influence de Leïla et de Nagui. Courage, monsieur. Et désolé enfin pour le rouleau de Nagui qui, on l'a bien entendu ce matin, est au bout du bout. Alors, s'il vous plaît, si vous nous entendez, envoyez quelques rouleaux pour Nagui. Il en consomme énormément. Alors, c'est Monsieur Guy, France Inter, Paris. À la vieillesse, quel naufrage.
Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Lundi, nous recevons Mélanie Houté et Jean-Paul Rouve pour Donne-moi des ailes. Merci mille fois, Sylvie. Et
merci,
bravo,
bravo.
Et on vous aime. Ouais. Sylvie Tessieu est au théâtre. C'est au théâtre Édouard VII pour l'heureux stratagème. Bonne journée, bon week-end.